Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique logement, la minute de l'Adil sur 48FM, où chaque semaine, une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat. Des thèmes nombreux et variés sur la location, copropriété, travaux, recherche d'un logement, impayé de loyer, accession à la propriété et bien d'autres. Et si vous aussi d'ailleurs vous souhaitez poser une question, vous pouvez adresser un mail à contact.adil48@orange.fr. Pour cette émission de rentrée, aujourd'hui, c'est une émission en lien avec l'actualité, puisque Héloïse Coste, directrice et juriste à l'Adil de la Lozère, nous délivre ses bons conseils pour louer un logement quand on est étudiant. Bonjour Héloïse.
Bonjour, bonjour à tous.
Et oui, en cette période de rentrée, c'est important déjà de pouvoir se loger.
Effectivement, et c'est vrai que rechercher un logement, même si ça peut paraître facile, ça demande un petit peu de préparation. Et donc aujourd'hui, je vais vous délivrer quelques conseils, précisément 6 conseils pour vous fournir des informations qui pourront être utiles à toutes les étapes de la recherche, de la constitution du dossier jusqu'à l'emménagement. Et le premier conseil que je donnerais, c'est de bien définir ces critères de recherche. Parce qu'effectivement, on peut comme ça directement éplucher les annonces, aller voir des agences, etc. Mais c'est quand même important de définir ces critères, ces besoins. Qu'est-ce que je cherche? Commencer par établir peut-être son budget. Hein, quel budget je peux consacrer à ce loyer en prenant en compte l'ensemble de ses ressources. En pensant aussi à prendre en compte, en plus du loyer, les différentes charges qu'on aura à payer. Hein. Je pense effectivement aux charges de l'immeuble, si dans l'immeuble il y a un ascenseur, un chauffage collectif, etc. Mais il y aura aussi la facture d'eau annuelle, l'assurance habitation, les factures EDF, l'abonnement Internet. Donc voilà, il faut penser à prendre en compte toutes ces dépenses. Et puis, en profiter pour regarder aussi sur le site de la CAF, quelle aide au logement on pourra avoir. Donc on peut faire des simulations d'aide au logement, il y a des simulateurs qui sont mis en place, donc il ne faut pas hésiter à faire des simulations déjà avant même de rechercher pour connaître précisément son budget. Ça ne sert à rien d'aller visiter des logements qui coûtent 600 euros de loyer si le budget est à 400. Il faut aussi déterminer si on cherche un logement individuel ou plutôt une colocation, déterminer si on cherche plutôt un logement meublé ou non meublé. Est-ce que voilà, j'ai déjà des meubles? Est-ce que j'ai le budget pour payer le mobilier, etc. Donc voilà, tous ces éléments-là, il faut les déterminer. Le secteur géographique, est-ce que je cherche dans une ou plusieurs communes, dans plutôt un quartier qu'un autre, selon ces modalités de déplacement? Est-ce que j'ai un véhicule? Est-ce qu'il y a du transport? Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis après, il est tout à fait possible d'établir une liste et puis éventuellement de classer en disant, mais moi, le plus important, c'est vraiment qu'il y ait 2 chambres. Le critère secondaire, ça sera plutôt telle commune, etc., etc. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième étape, constituer son dossier de candidat locataire. Et là aussi, un bon dossier, c'est un gain de temps et ça va rassurer effectivement aussi le propriétaire ou l'agence à qui on aura affaire. Donc il faut savoir que le propriétaire bailleur ou l'agence, ils peuvent vous demander un certain nombre de documents. Notamment, ils peuvent vous demander, avant la signature du bail, une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile, un ou plusieurs documents attestant de votre activité professionnelle, si vous avez un contrat de travail, une attestation de l'employeur, et puis des documents relatifs à vos ressources, donc l'avis d'imposition, les bulletins de paye, etc. Donc c'est bien de préparer tous ces documents dans son dossier pour pouvoir éventuellement les remettre au propriétaire dès la fin de la visite si on est intéressé. Parce que parfois, on est plusieurs intéressés sur le même logement. Donc, ça va être un petit peu celui qui aura le dossier le plus complet, qui le fournira le plus rapidement possible, qui sera sûrement prioritaire. Donc, il faut vraiment préparer tout ça.
En plus, ça montre qu'on est sérieux, qu'on a tous les documents attendus.
Tout à fait, exactement. Et puis, il faut savoir aussi que le propriétaire bailleur, il peut demander éventuellement des garanties. Hein, si la solvabilité du candidat locataire semble un petit peu juste, le bailleur peut demander des garanties. Donc, soit le cautionnement d'un parent, soit éventuellement la garantie visale. Et donc, ben forcément, là aussi, il faut être en mesure de dire au propriétaire ou à l'agence quelles garanties on est en mesure d'apporter. Est-ce que oui, j'ai quelqu'un qui se porte garant? Dans ce cas, avoir aussi ses justificatifs. Est-ce que je peux prétendre à la garantie visale? Avoir vérifié, avoir fait les démarches en ligne, avoir son passeport visal. Voilà, tous ces documents, tout ce dossier, c'est vraiment très important. La troisième étape, eh ben, ça va être effectivement la recherche des logements qui pourraient correspondre à tous ces critères. Donc, les recherches, elles peuvent se faire soit dans le parc social, soit dans le parc privé. Donc, pour les logements dans le parc social, hein, c'est ce qu'on appelle couramment les logements HLM, il faut savoir qu'il y a des plafonds de ressources. Donc, il faut vérifier auparavant si vos ressources vous permettent d'avoir accès à un logement social et ensuite faire une demande de logement social sur Internet. Et ce dossier, quand vous l'aurez fait sur Internet, il sera transmis aux différents bailleurs sociaux qui pourront vous proposer des logements. Vous pouvez aussi donc faire des recherches dans le parc privé, en allant donc rencontrer les agences immobilières du territoire qui ont des offres de location, mais également en allant directement rencontrer des propriétaires bailleurs qui, en général, diffusent leurs offres de location sur des plateformes Internet, dont une très connue. Et puis, il y a également, par exemple, sûrement de l'Office de tourisme qui recueille les offres de location des propriétaires bailleurs privés. Et puis, il ne faut pas hésiter, si on est étudiant aussi, à demander à l'établissement. Puisque, voilà, parfois, il y a des bailleurs qui ont l'habitude de transmettre leurs offres de location au chef d'établissement, qui peuvent après les relayer pour les jeunes qui chercheraient un logement. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à parler de sa recherche et à taper un petit peu à toutes les portes. On arrive à la quatrième étape, hein, qui est celle de l'organisation des visites. Alors, il est évident que on a tout intérêt à visiter le logement. J'entends que parfois c'est pas évident, hein, quand on va étudier à l'autre bout de la France, qu'on n'a toujours pas trouvé de logement et que on commence les cours dans quelques jours. On peut se dire bon bah tant pis, j'ai vu les photos sur l'annonce, ça a l'air bien, je le prends. C'est quand même essentiel de visiter le logement, de vérifier son environnement, de vérifier qu'effectivement c'est pas une arnaque, que le logement il existe vraiment et que les photos ont pas été prises il y a 15 ans. Voilà, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Donc on se rend sur place, on visite le logement. Ça peut être bien aussi de préparer à l'avance les questions qu'on veut poser aux propriétaires ou bailleurs ou aux professionnels, parce que c'est vrai que parfois, au moment de la visite, on n'y pense plus. Donc voilà, d'avoir sa petite checklist avant avec les questions, le montant des charges.
Quel type de chauffage?
Le type de chauffage, les équipements, la consommation énergétique, etc. Tout ça, c'est important. Et puis, si c'est un logement meublé, il faut bien vérifier qu'il y ait l'ensemble des éléments. Donc, on a un décret hein, qui nous liste le minimum d'équipement pour que le logement soit considéré comme meublé. Donc, il faut voilà, vérifier tout ça. Et éventuellement, s'il manque quelque chose, je pense notamment voilà, il faut un réfrigérateur et un congélateur ou au moins un frigo qui a un petit compartiment congélateur. Il faut un four à micro-ondes, il faut de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, etc. Donc, voilà, si on voit qu'il manque quelque chose, mais ben voilà, est-ce que ça, vous avez prévu de le fournir? C'est un équipement obligatoire, etc. Voilà, une fois qu'on est décidé, on va pouvoir faire sa demande d'aide au logement. Donc, à partir du moment où on est titulaire du bail, qu'on réside en France et que le propriétaire bailleur n'est pas un parent ou grand-parent, ni du locataire, ni du conjoint du locataire, on va pouvoir faire une demande d'aide au logement. Alors, parfois, on vient de voir en disant « Mais alors, vous pouvez me dire à combien j'ai droit ?» Alors, les règles de calcul des aides au logement sont quand même particulièrement complexes. Hein. Je pense qu'il faut avoir fait maths-sup, maths-p pour pouvoir le déterminer. Il y a énormément de critères, en fait, qui sont pris en compte dans le calcul de l'aide au logement. Donc, il faut pas se lancer dans des calculs comme ça approximatifs. Il faut vraiment faire la simulation sur le site Internet. Il faut savoir que quand on est étudiant, qu'on n'a pas de ressources il y a quand même la prise en compte de ressources reconstituées. Donc, c'est pour ça que on considère quand même que l'étudiant a des ressources. Il faut savoir aussi qu'on va prendre en compte depuis quelques années, on prend en compte le patrimoine aussi du locataire pour déterminer le montant des aides au logement. Donc voilà, est-ce qu'il a d'autres biens immobiliers ou du capital mobilier, etc. Tout ça, c'est pris en compte. Et avec l'ensemble de ces éléments, on va pouvoir déterminer le montant des aides au logement. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'emménagement. Une fois qu'on a respecté toutes ces étapes, il ne reste plus qu'à signer le contrat de location et à emménager. Je rappelle quand même qu'au moment de la signature du bail, le propriétaire peut demander le versement d'un dépôt de garantie, ce qu'on appelle communément la caution, et que son montant est strictement encadré. C'est maximum un mois de loyer pour un logement non meublé et 2 mois de loyer pour un logement loué meublé. Ce montant, il est encaissé en général par le bailleur et il sera restitué après l'état des lieux de sortie, on est à du paiement de ses loyers, de ses charges. Et si on a
C'est généralement ce qu'il demande, ce n'est pas le maximum, c'est ce qu'il demande. Oui.
Oui.
Meublé ou non meublé, c'est 1 mois ou 2 mois.
Effectivement.
On a rarement vu.
On a rarement moins.
Oui.
C'est vrai. Je rappelle également qu'à l'entrée dans les lieux, il faut fournir au propriétaire une attestation d'assurance pour les risques locatifs. Donc, il ne faut pas hésiter à comparer les contrats et puis à fournir son assurance. Et puis, quelques jours avant l'emménagement, il faut penser à activer les différents abonnements d'électricité, éventuellement de gaz, de fournisseurs d'accès Internet, de téléphone, etc. Un petit dernier conseil pratique, c'est pour tout ce qui est changement d'adresse. C'est vrai que parfois, c'est des démarches qui sont un petit peu fastidieuses pour les jeunes, mais même pour les moins jeunes d'ailleurs, d'indiquer les changements d'adresse au service des impôts, à la poste, etc. Donc, il faut savoir que sur le site Service Public, on peut du coup le faire directement en ligne et ça fournit l'information à tous les organismes. Donc, c'est particulièrement pratique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà.
Voilà. Après, on peut faire la crémaillère et on se met au travail.
C'est ça. Normalement, avec tout ça, au moins pour le côté logement, on peut passer une bonne année.
Alors, vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la DIL de la Lozère, rubrique questions-réponses et en podcast sur les deux sites internet. Si vous souhaitez poser une question relative au logement afin qu'une juriste de la DIL y réponde dans l'émission Les Minutes de la DIL, envoyez un mail à contact.adil48@orange.fr. Pour des conseils gratuits et personnalisés sur le logement, il y a un numéro de téléphone, le 04 66 49 36 65 ou par le mail que je viens de vous donner. Enfin, on peut venir vous rencontrer directement à la DIL.
Tout à fait. Donc, nos locaux sont situés dans l'immeuble Foch, au 12 bis avenue Foch à Mende. Et on est ouvert tous les jours, sauf le vendredi après-midi, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h. Et pour ceux qui ne sont pas sur Mende, on fait également des permanences dans les maisons de service au public.
Voilà, les mercredis à Langogne, Marvejols, Florac et Saint-Chély.
Exactement.
Et la DIL est également sur Facebook.
Voilà.
À DIL de la Lozère.
À DIL de la Lozère, tout simplement.
C'est parfait. Merci, Héloïse.
Merci.